Christoph Lichtenberg a dit ceci: la tendance humaine à considérer de petites choses comme importantes en a produit plusieurs qui sont fort grandes. Il y a au moins trois points que j'aimerais retenir à regarder avec vous ce matin. La première, c'est que les petites choses font en sorte qu'un ministère porte du fruit ou obtient des résultats. Ça, c'est la première chose que les petites choses apportent dans un ministère. Ils vont amener à porter du fruit ou obtenir des résultats. Pas nécessairement du fruit immédiat. Moi, je pense à Hudson Taylor, qui a été pendant 7 ans en Chine, rejeté, moqué par la plupart des chrétiens de nom là-bas, qui, à l'époque, la Chine était une colonie anglaise, qui se moquait de ce jeune Anglais qui venait leur faire la leçon, qui venait sur le terrain des Chinois pour aller annoncer l'Évangile. Et Hudson Taylor avait des notions de médecine, et pendant 7 ans, il n'a pas vu les fruits. Pendant 7 ans, il n'a pas vu les fruits des soins qu'il prodiguait aux Chinois, de l'Évangile qu'il proclamait aux Chinois. Et à un moment donné, bien, ce fut l'explosion. Hudson Taylor était fidèle dans les petites choses avec son Dieu, et il y a eu une explosion de conversion, à tel point qu'il a dû revenir à Londres et demander qu'on lui envoie 100 missionnaires pour arriver à contenir, finalement, toutes ces conversions qui venaient de se produire en Chine. Mes frères et sœurs, les petites choses font en sorte qu'un ministère va finir par produire du fruit ou obtenir des résultats. Voulez-vous voir du fruit dans ce que vous faites? Il faut être fidèle dans les petites choses, nous dit le Seigneur, c'est-à-dire les choses insignifiantes, sinon on ne verra jamais, jamais de résultats. Prenons l'exemple de Moïse. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, Moïse, ceux qui ont leur Bible, Exode chapitre 3, versets, les chapitres 3 et 4, Moïse, pardon, arrive à l'Horeb sur la montagne de Dieu, nous dit le texte biblique. Et qui a-t-il de et Dieu, pardon, Moïse craignait que les Israélites ne le croient pas. Dieu voulait l'envoyer en Égypte pour délivrer son peuple. Et Dieu lui dit, « Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, Moïse? » Vous savez ce que Moïse tenait dans sa main, frères et sœurs? Un bâton, juste un bâton de berger. Et Dieu va lui dire, « Jette-le par terre. » Moïse va le jeter par terre, et le bâton va devenir un serpent. Et le texte nous dit que Moïse fuyait le serpent. Et Dieu va dire à Moïse, « Écoute, avance ta main et saisis-le par la queue. » Moïse étendit la main et l'empoigna, et le serpent redevint un bâton dans sa main. Et c'est ce bâton de berger qui va permettre aux Israélites d'être libérés des Égyptiens et voir Dieu manifester sa gloire dans tout le pays d'Égypte. Ce bâton était une petite chose, un bâton de berger. Le bâton de berger, c'était quelque chose d'insignifiant. Mes frères et sœurs, dans les mains de Dieu, il est devenu non plus le bâton de Moïse, mais le bâton de Dieu. Et ce n'est pas Moïse qui a délivré le peuple d'Israël, c'est Dieu qui a délivré le peuple d'Israël à travers Moïse. Moïse, un berger. Moïse, quelqu'un qui a dû se sauver d'Égypte à cause de la colère du Pharaon et la condamnation à mort qu'il avait sur sa vie. Frères et sœurs, Dieu utilisait un petit berger, un exilé, recueilli par les prêtres de Madian. Moïse. Et Moïse était fidèle dans les petites choses, même s'il a trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas servir le Seigneur. Le Seigneur a dit, écoute, Moïse, pas toi qui vas agir, c'est moi qui vais agir à travers toi. Je pense à ce jeune adolescent qui était David, un jeune berger, qui n'avait aucune expérience dans la vie, quelqu'un d'insignifiant aux yeux des soldats d'Israël, mais qui, avec une pierre et une fronde dans sa main, va tuer le géant Goliath. Dieu avait utilisé le petit David. Quand il est arrivé, on verra tantôt, quand il est arrivé sur le champ de bataille, les soldats, ses frères, l'ont rabroué. Les soldats se moquaient de lui. Il n'avait aucune expérience militaire, rien. La seule expérience qu'il avait, c'est qu'il gardait des troupeaux de moutons et il passait la nuit avec son Dieu à la belle étoile pour veiller sur les moutons. Je me souviens dans Jean chapitre 16, 6, versets 1 à 14, de ce petit garçon qui avait apporté sa boîte à lunch, qui contenait 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, avec ces 5 pains et ces 2 poissons, ce petit garçon nourrira environ 5000 personnes. Ce n'était pas quelqu'un qui était en avant, c'était quelqu'un qui était parmi la foule. Dieu utilise les petites choses, les choses qui nous paraissent insignifiantes pour manifester sa gloire. Vous pouvez paraître être peu de choses pour certains, mais Dieu peut accomplir de grandes choses à travers vous si vous êtes fidèles dans les petites choses. Le Seigneur nous donne des conditions. Il y a des conditions à remplir pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu vous confiera aussi de grandes choses, nous dit Jésus. Maintenant, il s'agit de savoir faire la différence entre les petites choses, celles qui sont petites et celles qui sont grandes. Jésus était à Béthanie où vivait Lazare, là où on lui offrit un repas. Marie s'approcha de Jésus, elle prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard, nous dit le texte. Elle va le répandre sur les pieds de Jésus, elle va essuyer ensuite, les essuyer avec ses cheveux. Jésus dira « Partout où l'on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. » Frères et sœurs, cela se passait il y a 2000 ans. Et ce matin, dans cette église, nous mentionnons ce que cette femme a fait. Le monde entier est toujours rempli de l'odeur de parfum, du nard pur que cette femme a versé sur Jésus. Dieu utilise les petites choses, les choses que nous considérons comme étant insignifiantes, et là pour une seule et unique raison, pour se glorifier, pour se glorifier. Dieu ne veut pas entendre dire ses enfants, « Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. » Dieu veut entendre ses enfants dire, « Dieu a fait ça à travers moi. Quelle grâce! Quelle grâce! Amen! » Ouais, dans les petites choses, frères et sœurs. Un jour, Jésus regardait la foule qui mettait de l'argent dans le tronc du temple. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle mit deux petites pièces d'argent. Pourtant, ces deux pièces, nous dit le texte, représentaient tout ce que cette pauvre veuve avait pour vivre. Vous savez ce que Jésus va dire? Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tous les autres, deux pièces. Les théologiens ne s'accordent pas pour dire la valeur des deux pièces. Il y en a qui disent quelques centimes, d'autres disent deux quarts d'un centime. Et les riches, vous savez, surtout les pharisiens, quand ils venaient déposer dans le tronc, eh bien, c'est un cortège qui venait avec des sacs de monnaie sur le dos, avec des trompettes, qui là annonçaient que les pharisiens venaient déposer leur offrande dans le tronc. Et on ne mettait pas des papiers, on mettait des pièces. Pourquoi? Parce que ça faisait beaucoup de bruit quand ça tombait dans le tronc, et on voulait par là montrer aux gens combien on était généreux. Et Jésus va dire ceci, « Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. » Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Frères et sœurs, connaissant la bonté et la générosité de Dieu, je suis convaincu que lorsque cette veuve est arrivée à la maison, Dieu avait pourvu à tous ses besoins. Et Dieu avait honoré celle qui venait de l'honorer en donnant son offrande. Et non seulement a-t-elle donné plus que tous ceux qui ont donné ce jour-là, mais grâce à ce geste, cette pauvre veuve, aussi insignifiante pouvait-elle paraître aux yeux des gens de son époque, va permettre que des millions de dollars soient versés pour la cause de Christ depuis que nous lisons ce passage et qui est cité en exemple pour rappeler aux chrétiens combien ils doivent être reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'ils reçoivent de lui jour après jour. Deux petites pièces, peu de choses aux yeux des hommes, mais combien importantes aux yeux de Dieu. Dieu ne marche pas par les apparences, Dieu regarde au cœur. Deux petites pièces. Et la parole nous dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Dieu va la bénir. Vous vous rappelez cette parole de Jésus qui dit « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Vous participez à un ministère qui vous semble insignifiant dans l'Église, personne ne vous voit, personne ne remarque ce que vous faites. Rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu qui voit tout et qu'il remarque les petites choses qui peuvent vous paraître insignifiantes, frères et sœurs. Ce sont les petites choses qui amènent un ministère à porter du fruit. Certains pensent qu'ils n'ont pas suffisamment de capacité pour que Dieu puisse les utiliser. Il n'y aura jamais quelqu'un de trop insignifiant pour Dieu, frères et sœurs. Dieu ne disqualifie personne qui est fidèle à sa parole dans l'Église. Et ce sont ces genres d'individus que Dieu recherche dans son Église pour pouvoir se glorifier à travers eux. Ce n'est pas les capacités, ce n'est pas les diplômes que nous avons que Dieu recherche. C'est la relation que nous avons avec lui. Moïse avait une relation avec Dieu. David avait une relation avec Dieu. Job avait une relation avec Dieu. Noé avait une relation avec Dieu. Enoch avait une relation avec Dieu. Il est le premier qui a été enlevé et qui monte au ciel. Élie était le deuxième qui est enlevé et qui monte au ciel. Et les derniers qui seront enlevés, c'est ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ. À la fin des temps, quand le Seigneur reviendra. Les seules personnes, frères et sœurs, que Dieu n'utilise pas, ce sont celles qui sont imbues d'elles-mêmes. Rappelez-vous ce que Dieu a fait avec le bâton de Moïse. Pensez à cette pauvre veuve qui avait seulement 2 sous. Pensez au garçon qui avait 2 petits poissons, 2 poissons et 5 pains. Souvenez-vous de Dorcas qui était continuellement occupée à faire du bien aux pauvres. Elle leur confectionnait des chemises et des manteaux, nous dit le texte dans Actes chapitre 9. Et lorsqu'elle mourut, plusieurs la pleurèrent. Mais Dieu entendit la prière des gens, envoya Pierre, et Pierre, eh bien, la ramena de la vie à la mort. Quel Dieu nous avons, frères et sœurs! Jésus n'a jamais, 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 jamais cherché à accomplir quelque chose pour se faire remarquer. Jamais. À plusieurs reprises, il est arrivé, lorsqu'il faisait un miracle, de dire, « Garde ça pour toi, n'en parle pas à personne. » Il n'a jamais été président d'un pays. Il n'a jamais été gouverneur d'un État. Il n'a jamais cherché. Il n'a jamais cherché à devenir maire d'une commune. Il n'a jamais cherché à construire de grands édifices. Il n'a jamais cherché à réussir sa vie dans le monde avec les principes de ce monde. Il avait les yeux continuellement fixés sur le Père. Il n'avait pas l'éloquence des grands de ce monde. Non. Quand vous lisez et regardez les paroles que Jésus a prononcées, il se contentait de parler de choses simples et insignifiantes pour plusieurs. Il a parlé de fleurs. Il a parlé d'une pièce d'argent perdue. Il a parlé d'un fils perdu. Il a parlé de pratiquer le bien. Bref, Jésus s'intéressait aux petites choses de la vie. Et pourtant, personne d'autre comme lui n'a influencé ce monde et l'éternité comme il l'a fait. Et frères et sœurs, il nous invite à marcher dans ses pas. Marcher dans ses pas. Lorsque Dieu a décidé de nous racheter, comment a-t-il procédé? Un tout petit bébé est venu à Bethléem, au monde à Bethléem, dans une ville, dans un village de très peu d'importance, nous dit le texte biblique, parmi celles des familles de Juda. Celui qui est Dieu va devenir un homme et il va prendre plaisir à utiliser les petites choses qui peuvent sembler insignifiantes. Il va utiliser des gens qui ne sont pas qualifiés pour l'élite de leur époque. Et à travers Jésus, pardon, il va utiliser ces gens. On pense aux 12 apôtres. Il va les utiliser pour les amener un jour à faire en sorte qu'à travers eux, Dieu puisse se glorifier, sauf pour un. Apprenons à penser petit, ne pensons pas que tout ce qui est grand est synonyme de réussite et confirme que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Si nous pensons qu'à la grandeur d'une église, frères et sœurs, le nombre de personnes, le bruit et l'excitation qu'on y retrouve sont synonymes de bénédiction, nous commettons une grave erreur. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Barnum & Bailey, vous connaissez Barnum & Bailey? Je vais vous dire bientôt ce que c'est. Barnum & Bailey attirait de grandes foules. De grandes foules comme on voit des grandes églises remplir leur édifice le dimanche matin. Et Barnum & Bailey, pourtant, n'était qu'un cirque. C'est un des premiers grands cirques aux États-Unis. Ce n'était qu'un cirque, 35 000, 50 000, 60 000 personnes qui assistent au numéro de Barnum & Bailey. N'importe qui est capable d'attirer du monde, frères et sœurs. N'importe qui. Rappelez-vous Élie qui fuyait devant la reine Jézabel. Il était totalement battu parce qu'il savait qu'elle voulait sa tête et que le nombre de personnes qui s'opposaient à lui grandissait. Il s'est aperçu qu'il faisait partie d'une minorité qui suivait Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Élie? Le Seigneur va dire à Élie de se tenir sur la montagne. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu va envoyer une tempête. Et si vous lisez le texte, regardez 1 Roi 19, versets 11 et 12. 1 Roi 19, versets 11 et 12. Avez-vous vu un vent? Avez-vous déjà connu un vent qui va souffler tellement qu'il va fendre les montagnes et briser les rochers? Eh bien, c'est ce que le texte biblique nous dit. Un roi, chapitre 19, versets 11 et 12. Le Seigneur dit à Élie de se tenir sur la montagne devant lui qu'il allait passer. Aussitôt, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Hey, frères et sœurs, quand le Seigneur passe à quelque part, hein? C'est différent. Hein? Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y a eu le bruit d'un léger souffle, le bruit d'une petite voix. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a parlé à Élie. Quelque chose qui ne fait pas tellement de bruit. Des fois qu'on n'entend pas parce qu'il vient s'adresser au cœur des gens. Et le texte nous dit que Élie a compris que Dieu est en train de lui parler. Il se couvrit le visage avec son manteau. Chers amis, si vous ne faites pas attention, que vous fixez vos regards sur le vent, les tempêtes, les tremblements de terre, toutes ces choses qui font du bruit, qui attirent l'attention, vous risquez de ne pas entendre l'Esprit de Dieu lorsqu'il cherche à vous parler dans sa parole. Dieu est un Dieu qui se plaît à se révéler dans les petites choses. Nous avons besoin d'apprendre que les petites choses produisent des fruits durables. Si vous cherchez à faire les petites choses que Dieu vous demande, vous produirez du fruit et vous verrez Dieu agir dans votre vie. Deuxième chose que j'aimerais regarder ce matin à travers les petites choses, elles correspondent aussi à une certaine mesure de fidélité. Frères et sœurs, je méditais sur un passage ce matin avant de venir à l'Église, dans Romains chapitre 12, le verset 2, où Paul nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous connaîtrez ainsi quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon ou ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Frères et sœurs, il nous est très difficile de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Si on ne prend pas un temps pour méditer la parole, si on se conforme toujours aux habitudes de ce monde, il est impossible que nous puissions avoir le discernement pour comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2. « Afin que vous discerniez, que vous ayez l'esprit de discernement pour connaître la volonté de Dieu. Mais si vous vivez dans le monde, il est impossible, Dieu ne se fend pas en deux. Dieu ne marche pas avec le monde. Ça lui a coûté tellement cher pour nous faire entrer dans un autre monde, dans un monde nouveau. Tellement cher. Méditez-le, ce passage-là, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Hey, t'es né de nouveau. Mais décroche. C'est ce qu'il dit, Paul. Décroche. Tu vivais avec les habitudes du monde à l'époque. Décroche. Montre que t'es né de nouveau. Arrête de te conformer aux habitudes du monde. Maintenant, regarde maintenant ce que tu dois faire, dit Paul. Laissez le Seigneur te transformer complètement ton intelligence. Ça veut dire quoi? Laisse le Seigneur te transformer au niveau de ta pensée. Comment tu penses? Dans ta façon de voir les choses, afin que tu puisses voir les choses comme Dieu les voit. Laisse le Seigneur te changer ton intelligence pour que tu en viennes à penser comme lui. Frères et sœurs, comment on fait pour être capable de penser comme le Seigneur? Bien, il faut lire sa parole. Il n'y a pas de secret. Quand je partirai de cette église, la simple chose que j'aimerais que vous reteniez du pasteur Jacques Hudon, c'est qu'il nous harcelait, qu'il nous bombardait régulièrement en nous disant « Lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, vous ne résisterez pas au vent d'hérésie qui est en train de souffler sur la terre, vous ne résisterez pas à ça. » Pourquoi? Parce que votre intelligence n'aura pas été transformée par la parole et vous ne serez pas capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, si ça vient de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Frères et sœurs, le diable se déguise en ange de lumière. Il est étincelant. On peut même avoir l'impression que c'est un ange de Dieu qui nous apparaît. On va dans une église, on entend un message, on a l'impression que c'est Dieu qui nous parle. Et finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Une hérésie. On a besoin, Paul nous dit, de laisser tomber nos anciennes habitudes, développer les habitudes de Jésus, mais lire la parole pour que Dieu transforme notre intelligence et qu'on ait ce discernement qui va être capable de nous amener à discerner parfaitement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui lui est parfait. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre solution que de méditer les Écritures. Dieu n'en aime pas, je le répète, Dieu n'aime pas un plus qu'un autre. Dieu ne déteste pas plus un qu'un autre. Mais le secret, il est dans la parole. Je lisais une partie de la biographie de Wesley avant de venir ce matin. Je me suis levé très tôt avec le changement d'heure. Wesley se levait à 4 heures à tous les matins. Il est mort à 89 ans. De 4 heures à 6 heures, il priait pendant 2 heures. Pendant 2 heures, toute sa vie, jusqu'à 89 ans. Alors, on essaie de lire les secrets de Wesley. On se dit, Wesley, quel homme, quel homme. Mais il a mis sa vie sur l'autel, Wesley. Ouais. Il ne commençait jamais sa vie, sa journée le matin, sans prendre un temps avec son Seigneur, après méditer les Écritures. Et après, il partait prêcher. Il a fait 7000 km par année à dos de cheval pour annoncer l'Évangile. 7000 km. Faites-le, on va tous se promener en fauteuil roulant. Hein. Avec les problèmes de dos qu'on a aujourd'hui, on va tous se promener en fauteuil roulant. Il a fait 7000 km par année à dos de cheval pour prêcher l'Évangile. Moi, je prêche 60 et 70 sermons par année, dépendant où je vais. Wesley prêchait 250 sermons par année. Frères et sœurs, il n'était pas meilleur que nous, 1m60. C'est pas beaucoup, 1m60. 1m60. Mais Wesley était un petit homme qui servait un grand Dieu. Et on se base toujours sur Jésus pour dire, oui, mais je ne suis pas Jésus, moi. Mais Dieu nous a laissé des modèles. Jésus nous a laissé des beaux modèles à imiter. Et John Wesley en est un. 1m60. Ce n'est pas dans la grandeur de l'homme que Dieu sont grandis. C'est lorsqu'un homme voit que les choses, Dieu bénit à travers les petites choses au quotidien, que Dieu se glorifie et en fait sortir de grandes choses. Je vous invite à lire la biographie de Wesley, ça va vous édifier énormément. Dieu est un Dieu qui se plaît à se révéler dans les petites choses. Et nous avons besoin d'apprendre que les petites choses produisent des fruits durables, frères et sœurs. Dieu nous fournit les moyens nécessaires pour pouvoir porter du fruit, mais il tient compte d'une certaine mesure de fidélité de notre part. Lorsque Dieu est prêt à mesurer notre degré de fidélité, où regarde-t-il? Dans les grandes choses que nous avons accomplies? Non. Relisons encore une fois le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Frères et sœurs, si vous volez 5 euros, vous êtes autant considéré comme un voleur que celui qui a volé 5 millions. Hein? Si vous êtes injuste dans les moindres choses, vous l'êtes aussi dans les grandes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est grand a commencé au départ par quelque chose de petit. Rappelez-vous, tout ce qui est grand provient de quelque chose de petit. Les petites gouttes d'eau font apparaître la mer. Les petits grains de sable font apparaître quoi? La plage. Les petites gouttes d'eau. Accumulez-les tous, les petites gouttes d'eau qui tombent du ciel. À des endroits bien particuliers. Et ça amène des inondations. Ça amène des maisons à être démolies. Ça amène des villages à disparaître. Les petites gouttes d'eau. Mais quelle force! Quelle force derrière ces petites gouttes d'eau. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes? » Dieu est en train de dire qu'il est impossible pour lui de faire confiance, à nous faire confiance dans les petites choses. S'il ne peut pas, pardon, me faire confiance dans les grandes choses. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Comment voulez-vous que Dieu vous fasse confiance dans les grandes choses s'il est incapable de vous faire confiance dans les petites choses? C'est ce que Jésus est en train de dire. Tu veux servir le Seigneur? Tu veux que Dieu bénisse ton ministère? Mais comment Dieu peut te donner un grand ministère si tu es incapable de commencer par des petites choses et si tu es infidèle dans les petites choses que Dieu te donne? Et vous savez pourquoi Dieu nous donne des petites choses pour commencer à faire? Les petites choses sont des tests pour nous. Ce sont des tests que Dieu place sur notre chemin. Et ce sont comme des marches d'escalier, des degrés d'escalier que vous appelez ici, des degrés d'escalier. Alors quand le test passe dans les petites choses, ouais, bon, le Seigneur, c'est lui qui décide si on va monter une marche ou si on va laisser sur la même marche, ou si on va reculer d'une marche. C'est le Seigneur qui nous dit, qui sait si on est prêt, s'il est prêt à nous donner des choses encore plus grandes. Et frères et sœurs, à chaque fois qu'on n'est pas fidèle, on demeure toujours sur la même marche. Et c'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui, ça fait 20 ans, 30 ans, qui se disent chrétiens, qui n'ont pas bougé d'une seule marche. Ils ne sont pas fidèles dans les petites choses. Dieu ne peut pas leur confier de grandes choses. Et pourtant, frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est de vraiment se glorifier en toutes choses dans la vie de ses enfants. Dieu aimerait bénir certains, mais il ne peut pas le faire. Dieu voudrait utiliser certains, mais il ne peut pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans les petites choses, je le répète. Ils font partie de ceux qui pensent que Ah, je vais donner deux, trois indices. Hein. Bon, deux, trois exemples. Ben, vous ne vous sentez pas jugé. Je sais qu'il n'y a personne dans l'Église qui fait ça ici. Donnez deux, trois exemples. Par exemple, ce sont des gens qui font partie de ceux qui pensent qu'ils peuvent se stationner dans un endroit où il est défendu de se stationner. Ils font partie de ceux qui pensent que la limite de vitesse s'adresse aux autres et pas à eux, et qu'il y a juste un radar qui peut les faire ralentir. Ce sont ceux qui font partie, qui collent une étiquette de poisson dans le pare-choc de leur voiture, et que quand il y en a un qui vient leur faire une queue de poisson, il les dépasse et... Pensez que c'est grave, frères et sœurs. C'est ce que Dieu appelle des petites choses. C'est ce que Dieu appelle des petites choses. Ça vous demande un gros sacrifice. Ça me demande un gros sacrifice de respecter la limite de vitesse. Ça me demande un gros sacrifice de ne pas me stationner à un endroit où je ne dois pas me stationner. Ça me demande un gros sacrifice de ne pas faire de queue de poisson à quelqu'un qui vient de me couper. Mais de le laisser aller puis de prier qu'il ne se tue pas un peu plus loin. Frères et sœurs, pour nous, ça peut paraître de gros sacrifices, de grandes choses. Mais pour Dieu, c'est la base de la vie chrétienne. Quand vous voyez un chrétien avec un poisson sur son pare-choc qui est dans un endroit où c'est défense de stationner, bien, fuyez tout de suite après, ne témoignez à personne. Dites plutôt que vous avez acheté la voiture qui appartenait à un chrétien et que vous n'avez pas enlevé le poisson. C'est des petites choses. Mais c'est tellement facile de tomber dans la routine. Voilà pourquoi on doit lire la parole, parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu routinier. Et sa parole, elle nous appelle, elle nous relance continuellement à dire, écoute, non, moi je ne veux pas que tu tombes dans la routine, je veux te bénir. Et quand tu tombes dans la routine, tu perds des bénédictions, de riches bénédictions. Écoutez, on n'est pas beaucoup ici ce matin, hein? Frères et sœurs, Dieu nous dit de donner. Si on n'est pas capable de prendre 10 cents sur un euro, 10 cents, hein? 10 cents sur un euro qu'il nous demande, hein? C'est une bagatelle, hein? C'est une petite chose. Comment Dieu peut-il vous donner, déverser sur vous avec abondance? Vous voulez que je vous lise un passage qui va vous effrayer ce matin? Et la seule excuse que vous pouvez prendre pour ne pas vous effrayer, si c'est votre cas, c'est que c'est dans l'Ancien Testament. Dieu dit que quand un de ses enfants ne donne pas ce qu'il doit donner, il le vole. Et il y a une malédiction sur lui. Une malédiction! Donc, vous pouvez prier pour le salut de vos enfants, vous pouvez prier pour n'importe quoi. Dieu dit qu'il y a une malédiction qui repose sur vous. Dieu pourrait prendre 90% et vous laisser un 10%. Dieu ne le fait pas parce qu'il a besoin d'argent au ciel. Dieu le fait simplement pour voir si on est fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. Qu'est-ce que c'est 10 cents sur un euro? Qu'est-ce que c'est 10 euros sur 100 euros? Qu'est-ce que c'est 100 euros sur 1000 euros? Qu'est-ce que c'est 1000 euros sur 10 000 euros? Et pourtant, frères et sœurs, il y a des gens qui peuvent dépenser plus pour partir en vacances que ce qu'ils peuvent donner dans une année pour l'œuvre du Seigneur. Dieu dit, vous avez une malédiction qui repose sur vous. Ce n'est pas moi qui le dis. Dites pas que c'est le pasteur qui a prêché ça. Je vais vous donner le passage. Malachie chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Maintenant, on va être moins traumatisant que l'Ancien Testament. Je ne vous dirai pas que vous êtes frappés par une malédiction, mais vous perdez toute bénédiction. Voilà, je vais le dire de cette façon-là ce matin. Vous perdez toute bénédiction. Et rappelez-vous une chose, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'en a pas besoin. Et je ne vous parle pas d'argent ce matin parce que l'Église n'arrive pas dans les offrandes. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais je veux simplement vous rappeler que si on n'est pas fidèle dans cette petite chose-là, comment voulez-vous que Dieu bénisse? Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Ah, la dîme, c'est pour l'Ancien Testament. Alors, je vais vous donner, si vous voulez reprendre avec ça dans le Nouveau, Paul dit donner en toute libéralité. Toute libéralité. Frères et sœurs, À quoi mesurons-nous notre degré de libéralité dans le Nouveau Testament, nous? Il est facile à 10. Dieu dit maintenant, je ne t'oblige pas à donner 10, tu peux donner 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Je t'oblige, je peux oublier le 10. Alors, jusqu'où on établit notre niveau de libéralité par rapport au Nouveau? La grâce dans le Nouveau est encore plus exigeante que la loi dans l'Ancien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jacques chapitre 4. Si tu sais que tu dois faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Dans l'Ancien, on nous disait si tu commets un péché. Si tu fais ça, tu commets un péché. Là, Jacques nous dit si tu fais pas le bien que tu dois faire, tu commets un péché. On est pris, hein? C'est la grâce. Et pourquoi Dieu est plus exigeant dans le Nouveau? Parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà. Chers amis, lorsque le Seigneur il arrive que les gens viennent me voir en disant, « Pasteur, j'ai invité mon oncle et ma tante au culte dimanche prochain. Et j'aimerais que vous apportiez un bon message pour dimanche prochain. » Frères et sœurs, chaque fois que je prêche, j'apporte toujours le message que Dieu a placé sur mon cœur, et non pas ce que j'aimerais prêcher. Que ce soit dans une petite salle ou dans une grande salle, il n'y a pas de différence pour moi. Si vous donnez le meilleur de vous-même dans les petites choses qui vous sont demandées, vous le ferez aussi dans les choses les plus importantes encore. À son retour dans la ville natale, John Wesley assistait au culte du dimanche matin et de l'après-midi, dans l'église où son père avait été pasteur pendant tant d'années. Mais on ne lui donna pas l'autorisation de prêcher l'Évangile. Quelle était la cause d'une telle opposition? Les chrétiens de l'église endormis prétendaient que cela était dû aux prédications de Wesley. Ce même jour, à 6 heures du soir, John Wesley, debout sur le monument où était enterré son père, à côté de l'église, prêcha devant une assistance telle qu'on n'en avait jamais vue dans cette ville, et Dieu y sauva beaucoup d'âmes. Il a été fidèle dans les petites choses. Dieu lui a confié de grandes choses. Ce qui comptait pour Wesley, ce n'était pas le nombre de personnes qu'il y avait pour entendre l'Évangile. Ce qui comptait pour Wesley, c'était qu'il y avait des personnes pour entendre l'Évangile. Le nombre importait peu pour lui. On lui ferma toutes les portes des églises en Angleterre parce qu'il prêchait le salut par la foi et la nécessité de vivre une vie sanctifiée. Alors, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va lui ouvrir les portes, va lui ouvrir le monde. Il va commencer à prêcher en plein air devant des foules de plus de 30 000 personnes, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Alors qu'avant, il se limitait à prêcher des foules de 500 personnes dans les églises, Dieu va ouvrir les ventes du ciel. Et il va prêcher en plein air, 30 000 personnes, pas de micro, et tout le monde l'entendait. Frères et sœurs, c'était le Saint-Esprit qui parle à travers cet homme-là. Et c'est un modèle pour nous. 1738, c'est pas vieux, 1738. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Et Dieu prend soin de ses serviteurs. Il a été lapidé. Il est enfermé justement en prison. Wesley a payé le prix. Il aurait pu devenir millionnaire avec tous les livres qu'il a écrits. Il est mort avec une Bible, une fourchette et une cuillère. Tout l'argent, les revenus qui rentraient pour ses livres, c'était rediffusé dans les missions, rediffusé dans les églises où les pasteurs n'avaient pas les moyens. On n'avait pas les moyens de payer les pasteurs. On peut louer le Seigneur pour nous avoir donné de tels hommes et nous avoir laissé de grands témoignages. Chers amis, lorsque Dieu veut nous tester, il le fait d'abord dans les petites choses et non dans les grandes choses. Voici maintenant le dernier point que j'aimerais partager avec vous ce matin. On vient de parler de petites choses qui portent du fruit et d'être fidèles. J'aimerais maintenant dire que les petites choses représentent une force incroyable en elles-mêmes. Je n'ai peut-être pas tout le temps de dire mon message, mais pensez que si vous faites une petite chose, Dieu vous confie une petite chose. Et qu'à travers cette petite chose, parce que vous êtes fidèles, vous voyez un miracle, Dieu fait un miracle dans cette petite chose. Et ça ne vous stimule pas d'aller encore un peu plus loin? Ça vous stimule. Si on est trop exigeant dès le début et on demande de grands miracles au Seigneur, bien, c'est sûrement pas pour sa gloire. Alors, Dieu va retenir sa bénédiction. Mais dans les petites choses, et Seigneur, tu connais mon manque de foi. Seigneur, tu sais, Seigneur, que je manque de foi. Augmente la mesure de ma foi. Regarde, tu m'as donné ceci, Seigneur. C'est pas grand-chose, c'est insignifiant pour les gens du monde. Même pour les chrétiens de l'Église, ça peut être insignifiant. Mais Seigneur, tu connais mon cœur et je voudrais que tu te glorifies à travers cette petite chose. Tu peux être certain que Dieu va se glorifier. Tu peux être certain. Et là, après, ça vous encourage, ça vous stimule. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être un petit peu plus exigeant dans vos demandes. J'irai même un peu plus effronté dans vos demandes envers Dieu. Et là, vous revenez et dites, Seigneur, merci parce que ça a augmenté ma foi, le miracle que tu as accompli. Merci d'avoir exaucé ma prière, Seigneur. Maintenant, regarde, j'ai ça, maintenant tu me confies ça, Seigneur. Manifeste ta gloire dans ce que tu viens de me confier. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je vous ai dit dans la Bible, partout où il y a une prière où les gens disent, aie pitié de moi, Dieu a toujours, toujours, toujours répondu. Toujours. C'est quoi, aie pitié de moi? Seigneur, tu ne me dois rien. Je suis un minable, Seigneur, sans Jésus-Christ. Je suis rien. Tu ne me dois rien. Tu auras le droit de détourner ton regard de moi. Tu auras le droit de me rejeter, mais à cause de Jésus, tu as fait cette promesse. Tu ne rejettes personne qui vient à toi. Et Seigneur, je viens encore implorer ta pitié. Manifeste ta gloire dans ce que tu viens de me donner, qui est un petit peu plus grand que ce que j'avais avant. Et Seigneur, je veux continuer à vivre fidèlement dans ta parole. Frères et sœurs, lorsque nous voyons Dieu agir dans les petites choses qui surviennent dans nos vies, cela nous fortifie, nous encourage à persévérer dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Un peu plus tôt, nous avons parlé de David. Et un jour, son père demande d'aller porter de la nourriture à ses frères, qui faisait la guerre aux Philistins, et de rapporter les nouvelles, comment ils allaient. Et David arrive au camp à l'heure où l'armée se mettait en ordre de bataille, face à face. Et à ce moment-là, les combats, c'était facile pour épargner les pertes humaines. On choisissait un homme dans un camp, un homme dans l'autre. Ils se battaient ensemble. Et le vainqueur, eh bien, les vaincus, ils devaient se soumettre au vainqueur. Donc, plutôt que d'arriver et qu'on se tue tout le monde ensemble, qu'on s'entretue, c'était un guerrier de chaque côté qui devait s'affronter. Et c'est pour ça que pendant des jours et des jours, Goliath, le géant, arrivait devant le peuple d'Israël à chaque matin. Et là, il provoquait le peuple d'Israël en disant, « Hey, envoyez-moi quelqu'un. Envoyez-moi quelqu'un. » Il mesurait plus de 2 mètres, ce bonhomme-là. Alors, envoyez-moi quelqu'un. Et là, David arrive à ce moment-là où, finalement, Goliath s'avance devant son armée pour défier l'armée d'Israël. Il voit tous les Israélites qui reculent devant Goliath. Tous ont peur, nous dit le texte biblique. Et là, David, il se retourne, il demande aux soldats qu'est-ce qui se passe. Et il demande aux gens qui sont près de lui, c'est quoi la récompense? Qu'est-ce qu'il y a comme récompense à celui qui va tuer ce Philistin? Et vous savez, les paroles de David, regardez la profondeur d'un homme de Dieu. Il dit, c'est quoi la récompense qui est donnée à l'homme qui va tuer ce Philistin, ce païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Tout le monde a entendu parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Le roi Saül en fut informé. Il va faire venir aussitôt David, qui fortifia le cœur du roi. C'est lui qui va encourager le roi. Un petit berger, un insignifiant, un jeune. « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi-même me battre contre lui. »« Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. Tu ne seras pas capable de tuer ce géant. »« Majesté, reprit David, quand je gardais les moutons de mon père, que je n'étais qu'un pauvre berger insignifiant dont personne ne faisait attention. Si un lion ou un ours venait et emportait un mouton du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais la victime de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge et je le frappais à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé, quelle foi! Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours sera aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Et David va prendre son bâton, il va aller choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il va les mettre dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il se dirige vers Goliath. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approche de plus en plus de David. Il examine David, et le texte biblique nous dit qu'il n'a eu que du mépris pour lui, parce que David est encore jeune. Probablement que David n'avait jamais eu, c'était peut-être encore jamais rasé. C'était un jeune homme. Que va répondre David? Hey, frères et sœurs, il faut avoir un vécu avec Dieu pour parler comme ça. Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre, mais moi, je viens au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer, te couper la tête. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée, n'a pas besoin de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Frères et sœurs, à l'extérieur, il y a une guerre spirituelle qui se passe. Rappelons-nous que le Dieu que nous servons est le maître de cette guerre qui se passe à l'extérieur. Que Dieu nous a donné toutes les armes pour lutter contre pour être capable d'affronter cette guerre et pour repousser les attaques de l'ennemi. Il nous a donné l'épée de la parole pour faire reculer. Vous savez, une épée, ça sert à deux choses, hein? Ça sert à attaquer et ça sert à se protéger. Et on a besoin de bien maîtriser l'épée de la parole, qui est contenue dans la parole. Goliath se remit en marche en direction de David. Celui-ci courut, écoutez bien. Il voit Goliath arriver, là. Tu le regardes comme ça, hein? Tu vois arriver. On ne dit pas que David a fait deux, trois pas en arrière. David, quand il a vu que Goliath commençait à marcher, le texte biblique nous dit qu'il a couru vers lui. Couru. À la rencontre du Philistin, il prend une pierre dans son sac, la lance avec sa fronde et l'atteint en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula, la face contre terre. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua, sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Et frères et sœurs, je suis convaincu parce que David était fidèle au Seigneur. Et quand il a mis la pierre dans sa fronde et qu'il s'est enligné, je suis convaincu que c'est le Seigneur qui a dirigé où la pierre devait aller se loger sur ce géant. Je suis persuadé. Frères et sœurs, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. David était fidèle dans les petites choses et à cause de cela, il était fortifié dans son cœur parce qu'il avait vu Dieu agir dans sa vie, dans les petites choses. Il avait été fidèle en prenant soin du troupeau de brebis que son père lui avait confié. Et parce qu'il a été fidèle dans cette petite chose de garder le troupeau que son père lui avait confié, Dieu va faire de lui le grand berger qui va prendre soin du peuple de Dieu, de son peuple, pendant des années. Petite chose, occupe-toi des moutons. Ça pue, ça sent pas bon. Tu dors à la bonne étoile, c'est pas le luxe. Mais David, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en confier de plus grandes. Et à force de développer cet esprit de fidélité envers le Seigneur, eh bien, on entendra peut-être le Saint-Esprit nous dire, j'ai trouvé en Jacques, j'ai trouvé un tel, un homme selon mon cœur. Amen. Si certains pensent que cela était valable uniquement pour l'Ancien Testament, pensez à l'Église primitive. Rappelez-vous comment l'Église primitive a grandi. Jésus a commencé avec 12 disciples. Dans Actes chapitre 1, verset 15, vous pouvez tourner dans Actes chapitre 1, verset 15, c'est juste pour vous donner les chiffres, pour être sûr que je ne me trompe pas. Actes chapitre 1, verset 15. Bon, quand je parle des 12, bien sûr, on pense que Judas a été remplacé. Donc, ils sont maintenant 12. Et dans Actes chapitre 1, verset 15, qu'est-ce qu'on y lit? Les 12 sont passés à 120. Multiplié par 10. Et puis, le jour de la Pentecôte, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Actes chapitre 2, verset 41. On est rendu à 3120 personnes. Actes 2, verset 41. Verset 47, même chapitre. Il est écrit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Puis dans Actes chapitre 4, verset 4, nous lisons que suite à la prédication de Pierre et de Jean, environ 5000 hommes furent sauvés. Si nous ajoutons les hommes, nous ajoutons les femmes et les enfants, cela fait à peu près 20 000 personnes. Si vous ajoutez les 5120 qui avaient déjà reçu le Seigneur, nous sommes rendus à 25 000 personnes en quelques jours seulement. Puis dans Actes chapitre 5, verset 14, nous apprenons que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Dans Actes chapitre 6, verset 7, il est écrit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. que le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et qu'un grand nombre de prêtres s'étaient convertis. Frères et sœurs, on ne parle plus d'addition ici. On parle de multiplication. Dieu nous parle de la croissance de l'Église primitive dans sa parole. Une Église qui explosait en croissance. Et vous savez pourquoi? Parce que ces chrétiens de la première Église, ces chrétiens s'appliquaient à faire de petites choses. Ils étaient fidèles dans les petites choses. Ils se réunissaient ensemble pour prier. Ils essayaient le plus souvent possible de se rencontrer. Pas pour dire n'importe quoi, pour glorifier le Seigneur, pour partager ce que le Seigneur faisait dans leur vie. Et ils sortaient, ils étaient blindés, et ils sortaient, et ils rendaient témoignage de ce que Dieu faisait dans leur vie. Frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler ce que Jésus a dit. Je vais le dire un peu plus tard. Nous avons besoin d'apprendre, frères et sœurs, en quoi consiste le principe de multiplication. Frères et sœurs, si je vous offrais $1 million, calculez, hein? Il y a une comptable en plus ici. On va calculer, calculez bien ce que je vais vous dire. Si je vous offrais $1 million et que je vous disais que je vais vous donner 1 centime, oui, et que je vous certifie que je double ce centime à chaque jour pendant un mois, laquelle des deux offres choisiriez-vous? Réfléchissez. Ce matin, j'ai un million d'euros ici. Tout en coupure. En billet de 100. Et je vous dis, écoutez, vous avez le choix de prendre ça ce matin, partir avec. Ou, je vous donne 1 centime et je m'engage à le doubler jour après jour pendant un mois. À doubler la somme. C'est-à-dire, le premier jour, 1 centime plus 1 centime égale 2 centimes. Deuxième jour, 2 centimes plus 2 centimes égale 4 centimes. Troisième jour, 4 centimes plus 4 centimes égale 8 centimes. Quatrième jour, 8 centimes plus 8 centimes égale 16 centimes. Cinquième jour, 16 centimes plus 16 centimes égale 32 centimes. Sixième jour, 32 centimes plus 32 centimes égale 64 centimes, et ainsi de suite. Après ça, 128. Après ça, 256. 256 plus 256, ou 256 fois 2, égale, et ainsi de suite, pendant 30 jours. Ce matin, laquelle des deux sommes vous prendriez? Qui prendrait $1 million? Quand vous arriverez à la maison, prenez votre calculette, multipliez 1 centime plus 1 centime, la somme, doublez la somme à chaque jour, et à la fin du mois, vous allez avoir 25 millions d'euros. Si vous doutez, faites le test à la maison. 25 millions d'euros. Supposons maintenant qu'il y ait un seul chrétien à Liège. Supposons maintenant qu'il n'y a qu'un seul chrétien à Liège et que ce seul chrétien amène une seule personne à Christ dans une année. Retenez bien ce que je vous dis. Un seul chrétien à Liège qui amène une seule personne à Christ dans une année. Ne parlons pas de doubler le nombre de chrétiens à chaque jour, mais de doubler le nombre à chaque année. Et qu'il enseigne à celui qu'il vient d'amener au Seigneur de se convertir, à son tour d'amener une seule âme par année à Christ. Après 20 ans, combien vous pensez qu'il va y avoir de chrétiens en Belgique? Il y aura 25 millions de chrétiens en Belgique. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est une population de 11 millions. Ça veut dire qu'on serait déjà rendu à l'extérieur de la Belgique. Au lieu de se pavaner dans les grandes campagnes d'évangélisation, si un seul chrétien aime un chrétien à chaque année au Seigneur et qu'il dit à ce chrétien-là, écoute, maintenant, c'est à toi d'en amener un à chaque année. Au bout de 20 ans, il y a 25 millions de chrétiens en Belgique. Une année. On a 365 jours pour prier pour quelqu'un, pour que le Seigneur puisse faire une œuvre de rédemption dans sa vie. Incroyable, hein? C'est incroyable. Les petites choses finissent par produire de grandes choses. Les petites choses fortifient notre foi parce que nous voyons agir Dieu. C'est celle qui nous permettrait de dire à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous oublierait. Chers amis, nous avons besoin de penser petit. Et lorsque je dis de penser petit, ne pensez pas mal. Ne pensez pas que je suis en train de dire que vous devez vous satisfaire avec moins que ce que Dieu veut pour vous. En fait, je suis simplement en train de dire que le fait d'être fidèle dans les petites choses est un moyen de se fortifier dans le Seigneur. Être fidèle à Dieu, c'est la racine de beaucoup de fruits. Et c'est la seule manière de porter beaucoup de fruits. Jésus a dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Lorsque je parle de petites choses, frères et sœurs, je ne parle pas de banalité ou de choses futiles ou frivoles. Je ne vous dis pas que votre objectif pour servir Dieu ne doit pas être aussi grand que le monde. Mais rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu qui apprécie de voir ses enfants être d'abord fidèles dans les petites choses. Écoutez, on vient au Seigneur, on est des bébés. Dieu ne peut pas exiger de nous déjà de partir et dire, écoute, tu es au top. Tu deviens tout de suite mon héros, non? Il y a toute une préparation. Dieu est intelligent. Dieu veut nous épargner des souffrances inutiles. Pendant 6 mois, les 6 premiers mois, on est comme le bébé qui est dans sa couchette, on est protégé par comment est-ce qu'on appelle ça ici en Belgique? Alors, vous savez, il y a des barreaux après les couchettes et on met un revêtement à l'intérieur pour éviter que le bébé se blesse. Et maintenant, on est rendu avec des appareils électroniques, on entend si le bébé respire, respire pas, il pleure pas, il a faim, il n'a pas faim, ou il a fait ou il n'a pas fait. Parce qu'il pleure quand il a fait, hein? Et là, écoutez, le bébé, quand il vient au monde, il est vraiment surprotégé par les parents. Parce que c'est un miracle, une naissance d'un bébé. C'est un miracle. Frères et sœurs, quand quelqu'un vient au Seigneur et qu'il naît de nouveau, c'est un miracle. Et les 6 premiers mois, le Seigneur, il le protège. Il place vraiment ses anges. Moi, je suis convaincu qu'il place ses anges autour d'eux et qu'il les protège parce qu'il sait que le malin va agresser, le malin va attaquer pour les décourager, pour retourner dans le monde. Rappelez-vous la parabole des 4 terres. Dieu est un Dieu merveilleux si on est fidèle dans les petites choses, dans ce qui semble être insignifiant aux yeux de plusieurs. Dieu va être fidèle. Et va nous préparer à accomplir de grandes choses, toujours pour se glorifier. Paul dira à Timothée concernant les jeunes chrétiens, 1 Timothée 3:10, qu'ils soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, qu'ils soient mis à l'épreuve dans l'Église, et après qu'ils servent. Pas qu'ils servent pour connaître leurs capacités, qu'ils soient mis d'abord à l'épreuve, afin qu'ils donnent-leur des petites choses à faire. Et regarde s'ils sont fidèles dans ces petites choses-là. Et là, s'ils montent d'un palier à l'autre dans l'escalier, donne-leur de plus grandes choses. Mais commence d'abord dans les petites choses. Et Paul, on le sait, il le dit ailleurs, pour éviter qu'ils s'enorgueillissent, qu'on leur donne des responsabilités beaucoup trop rapidement dans l'Église. Frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas une usine, ce n'est pas une entreprise. On n'est pas là pour fabriquer. On est là pour permettre à Dieu de voir des miracles s'accomplir au milieu de ses enfants. Frères et sœurs, c'est la manière de Dieu d'agir. Teste le nouveau chrétien. Donne-lui des petites choses. Regarde s'il est fidèle. Et s'il est fidèle dans les petites choses que tu lui confies. Frères et sœurs, ce n'est pas grand-chose. Hein. J'espère que je ne vise pas personne ici. Hein. Il y a un ministère ici pour le nettoyage. C'est vrai, c'est pas vrai. Souvent, il y a des nouveaux chrétiens qui font partie de ce ministère-là, qui est peu glorifiant aux yeux des hommes, mais que Dieu apprécie comme n'importe quel ministère. Vous mettez un jeune chrétien dans un endroit, vous le mettez dans ce ministère-là. Vous lui demandez, par exemple, de nettoyer les toilettes. Donc, ça comprend changer de papier et mettre le chou dessus, bon, ainsi de suite. Et là, écoutez, vous venez, il est là pendant 2 semaines, mais pendant 2 semaines, il ne vient pas. Vous passez par-dessus, vous dites, il était peut-être malade, il a peut-être eu quelque chose. Quand son tour revient, vous vous apercevez que pendant les 2 semaines, il ne l'a pas fait. Et là, au bout de 6 mois, il vient vous trouver, il vous dit, écoute, ça fait 6 mois que je suis au Seigneur et j'aimerais bien qu'on puisse me confier un ministère un peu plus valorisant que les toilettes. Mais Paul, il dit, donne-lui rien parce qu'il n'a pas passé de test. Donne-lui pas autre chose. Parce qu'il n'est pas capable, il n'a pas passé son premier test. Teste-le dans les petites choses, s'il est fidèle, après, commence à lui donner des choses un peu plus importantes. Ça, c'est la responsabilité du conseil de discerner ce genre de choses chez les nouveaux chrétiens. C'est la manière de Dieu de procéder. Ces premiers tests sont si importants dans la carrière d'un jeune chrétien, tellement importants. Saura-t-il répondre dans sa vie privée, dans son témoignage public, afin qu'ensuite on puisse lui confier davantage? Et en terminant, j'aimerais vous dire de ne jamais, jamais vous comparer à qui que ce soit dans l'Église. Jamais. Ne jamais penser que parce qu'il n'y a aucune œuvre... Ne jamais penser que vous pouvez être insignifiant, que jamais... ne jamais vous comparer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu, ce n'est pas sur nos capacités qu'il nous juge aptes à le servir. C'est toujours sur notre fidélité. Toujours sur notre fidélité. Frères et sœurs, faire la volonté de Dieu, c'est la place la plus élevée qu'on peut occuper dans l'Église. Certaines choses peuvent vous paraître trop grandes pour que Dieu vous utilise, mais vous ne serez jamais trop petit pour que Dieu ne puisse pas vous utiliser. Les choses dans l'Église peuvent vous paraître trop grandes. On demande à quelqu'un de prêcher, « Oh, je ne suis pas capable, oh, je vais faire ça. » Moi, mais je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme le pasteur, je ne suis pas comme un tel, je ne suis pas comme... » Ne vous comparez jamais à personne. Dieu parle à travers le pasteur, Dieu est capable de parler à travers chaque membre dans cette Église. Le pasteur, c'est un membre ordinaire, avec un appel particulier, mais c'est un membre ordinaire qui est redevable aux membres, comme tous les membres de l'Église. Mais ne pensez jamais qu'il y a quelque chose de trop important, trop grand pour vous, que vous ne pouvez pas faire. Et ne pensez jamais que vous êtes trop petit pour que Dieu ne puisse pas vous utiliser. Rappelons-nous combien les petites choses sont importantes pour Dieu et que nous devons être fidèles, autant dans les petites choses que nous le sommes dans les grandes, si nous voulons voir Dieu se glorifier dans nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever.